Interview.
1 interview du jour.
Bonjour, ici Andy Wa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Michel Geoffroy. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être reçu par Andy Wa, la radio locale.
Et à côté de vous, nous avons Dorine Gessler. Bonjour.
Bonjour Yves.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous annoncer le Café Mortel qui se tiendra jeudi 5 février 2026, donc au Pestel Café. Ça sera à 18h et donc c'est une reprise de ce moment que l'on avait connu avec un certain paroxysme au sortir du Covid notamment. Et donc il y avait aussi ces rendez-vous en lien avec écologie au quotidien également. Qu'en est-il aujourd'hui donc de ce Café Mortel ?
Alors, ce Café Mortel est ressuscité, si vous permettez le mot, dans la mesure où il se passera en dehors d'écologie au quotidien, mais peut-être que cette association en animera de nouveau. C'est un collectif qui était déjà partiellement créé, qui s'est agrandi récemment. Et donc, depuis ce mois de janvier, nous reprenons les Cafés Mortels parce que nous y croyons et parce qu'il y a finalement de la demande.
Dorine, pareil, cet engagement auprès du Café Mortel, cela a quel sens pour vous ?
En fait, ça date depuis, j'ai envie de dire, mon adolescence, où j'adorais déjà parler de la mort, du deuil, mais complètement comme un sujet anodin, comme aussi parler de la vie, hein, pour moi c'était égal. Et j'ai jamais compris la réaction des adultes qui me disaient « mais c'est morbide ce que tu dis, pourquoi tu parles toujours de ça ?» Et en fait, j'ai attendu jusqu'à maintenant en fait, de pouvoir en parler librement sans être jugée. Donc je trouvais le cadre parfait en étant dans un bar, dans un café, et de parler pendant 2 heures autour de ce sujet. Et faut dire, on rigole beaucoup aussi. C'est pas du tout dramatique et aussi morbide qu'on croit.
J'avais assisté à une de ces réunions. C'était au Café Voltaire à l'époque. Et il y avait une salle remplie, hein, noire de monde, avec du refus aux entrées. Et donc, il avait fallu renouveler peut-être une séance. Il y a ce côté donc humoristique, mais il y a aussi un grand intérêt. Quel est l'intérêt de ce public de venir à ces réunions ?
Alors, c'est bien de rappeler l'origine. C'est un ethnologue suisse, donc là, ça fait sérieux, mais qui travaillait beaucoup sur le thème de la mort et qui a vu que la parole était hyper importante pour faire sortir la mort dans le public, en parler, faire sortir du tabou. Et que c'était plus facile éventuellement de mettre un coude sur un comptoir et puis d'en parler en buvant un coup, voilà. Donc il a créé ce concept et ça s'est bien répandu. De par le monde, je ne sais pas bien, en France en tout cas, il y en a de plus en plus. C'est un lieu où en fait, c'est un groupe de parole certes, mais les gens y viennent. Donc on a une règle quand même qui est de chacun témoigne en son nom personnel. On ne réagit pas, on ne console pas, en tout cas pendant ce temps. Et c'est extraordinaire tout ce qu'on peut entendre des personnes qui n'ont jamais dit certaines choses. Et c'est vraiment faire sortir la mort du silence en buvant un coup vraiment et en disant absolument tous les sujets, que ce soit du deuil, que ce soit des funérailles bien déroulées ou mal déroulées, des interrogations que l'on a. Et vraiment, on sent une écoute extraordinaire de par ce moyen. Voilà.
À l'image de ce que disait Dorine, pareil, il y a souvent une réaction face à cette notion de la mort quand vous en parlez, par exemple, au public en général.
J'y vais, Dorine. Oui, c'est sûr que même cette appellation de Café Mortel fait parfois un splash. Waouh, c'est quoi ça ? Mais en fait, déjà, nous autres qui avons assisté à plusieurs, c'est évident qu'il y a comme un apprivoisement. Si ça arrive, cette mort, parmi nous ou dans les, autour de nous, c'est toujours difficile, mais il y a un apprivoisement. Et les personnes qui sont venues voient bien à la fin d'une séance ou reviennent et voient bien que parler de la mort, ça vaut vraiment mieux que de ne pas en parler.
Et puis, cela touche tout le monde. Et d'ailleurs, on y trouve toutes les générations à ces cafés mortels.
C'est tout à fait ça, oui. On a, je pense, les plus jeunes qu'on a eux, ils avaient 14 ans, 14-15 ans, les adolescents. Et après, ça peut aller jusqu'à 100 ans presque. Hein. On a des très anciennes et anciens qui viennent. Donc, il y a vraiment une grande mixité d'âge. Oui, et j'aime beaucoup une phrase que l'ethnologue sur ce lac suisse a écrit dans son livre sur les cafés mortels, qui m'a fait tilt quand j'ai lu. Il a écrit « On est comme une bande de rebelles dans un café mortel, parce qu'on choisit de partager de nos expériences, nos souffrances et nos peurs autour de la mort, ainsi que nos petites victoires et nobles échecs, nos blessures, nos ressentis, nos rituels et nos anecdotes liées à la mort et le deuil. » Et pour moi, ça fait tilt, parce que l'objectif d'un café mortel, c'est vraiment de libérer la parole et de créer un espace-temps pour s'écouter et mettre des mots sur quelque chose qu'on n'a peut-être jamais osé dire à nos proches même, et mettre les mots sur les pertes qui nous ont marqués de façon terrible dans nos vies, de réaliser que c'est ce que je vis crée aussi un savoir commun, de partager ce savoir commun. Et c'est ce qui est le plus important pour moi et ce qui m'aide personnel, à titre personnel aussi, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul, que d'autres aussi ont vécu des expériences semblables et leurs témoignages peuvent m'inspirer et m'aider aussi. Encore une fois, Michel disait, c'est pas un groupe de soutien ni de coaching ou de psychologique, ni un cercle de parole. C'est juste un espace-temps qu'on ouvre pour échanger autour de ce sujet tabou, il faut dire. Hein, c'est encore tabou aujourd'hui, en 2026. Et on aimerait ouvrir ces espaces régulièrement, une fois par mois, pour mettre ce sujet autour, dans un lieu central principalement dans des bars, des cafés, parce que c'est les lieux qui sont très fréquentés.
D'où le titre « Ensemble, sortons la mort du silence ». Cela touche pile poil cette notion. Michel Geoffroy, par rapport à ces moments, comment se déroule cette séance ?
Oui, c'est normalement, nous ne connaissons pas tous les cafés mortels de France et de Navarre, mais de ceux que nous connaissons, et nous en parlerons plus tard, parce qu'il y en a d'autres partout, il y a une sorte de règle du jeu. Alors, il y a un cadre. Nous sommes souvent deux, une personne qui anime, présente, et une autre personne qui est là en soutien, qui peut intervenir, qui garde le temps. Et nous rappelons l'origine, et puis nous exprimons la règle du jeu. C'est vraiment de s'exprimer en son nom propre sur une expérience ou une interrogation, et sans vraiment réagir ou donner des leçons ou consoler. Tu sais, moi, j'ai fait ça, je vais te dire. Ça, c'est vraiment le moment où on peut très bien intervenir pour dire ben, non, plus tard. Voilà. Donc, en général, ça dure à peu près 2 heures. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec le temps, puisque c'est un lieu d'expression de soi, de témoignage, de ressenti, mais c'est aussi une interrogation sur ce qui est la mort, le funéraire. Et il arrive un moment où des personnes commencent à poser des questions et certaines répondent. Donc à ce moment-là, nous allons peut-être arrêter le café mortel témoignage pour passer un moment d'information avec ce que nous pouvons savoir. Parce qu'en fait, à partir des cafés mortels, et ça a déjà été fait avec Écologie au quotidien, il y a eu des présentations de films, des conférences, des présences de médecins en soins palliatifs, et puis encore récemment même à la Corderie, des ateliers sur les directives anticipées, les volontés funéraires, parce que les gens en fait se posent des questions, ont besoin de savoir, et c'est une extension des cafés mortels qui permettent aux gens d'en savoir plus et de se préparer et d'oser dire et savoir. Voilà.
Et moi, j'ai envie d'ajouter, nous, en animatrice, on est en général en binôme pendant ces 2 heures, on veille sur les cadres. Donc, on rappelle tout de suite au début que c'est aussi un cadre confidentiel, donc c'est-à-dire les anecdotes, les histoires qu'on se raconte restent dans ce cercle et dans ce cadre-là. Et donc, on ne se raconte pas ça au marché le lendemain. Et qu'on veille sûrement aussi sur la répartition de la parole, que c'est à peu près équitable. En général, on a des prises de parole entre 5 à 7 minutes. Ça dépend la taille du groupe, mais voilà, on a une petite clochette sympa qui rappelle voilà, que le temps est pas passé et que ce sera bien de passer le bâton de parole à quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt ça notre rôle dans ce cadre-là. Voilà, on veille sur que ce soit, le cadre soit respecté et que tout le monde peut s'exprimer. Il faut dire aussi, on peut venir à un café mortel aussi sans forcément parler, on peut juste écouter aussi, c'est ok. Personne n'est obligé de s'exprimer et des fois, ça fait déjà du bien. C'est ce qui anecdotique aussi, c'est que souvent les personnes qui arrivent, qui nous disent en amont, par contre, je suis venue, je ne vais pas m'exprimer. Souvent, c'est des personnes qui finalement s'expriment et qui, avec l'énergie et l'espace qu'on ouvre, se sentent témoigner. Et on peut dire un peu, on a 30% de, entre guillemets, d'abonnés, donc les personnes qui nous connaissent, qui viennent régulièrement à nos cafés mortels. Et 70%, ce sont les gens qu'on n'a jamais vus, qu'on va peut-être juste une fois pendant ce temps-là. Et c'est OK, il y a encore une fois pas de... Nous, on propose une régularité pour toucher un maximum d'habitants, mais ça ne veut pas dire qu'il faut venir à chaque café mortel.
Je voudrais juste rajouter, il y a toujours étonnamment une atmosphère extraordinaire. Bon, s'il y a du bruit dans le café, c'est pas grave, on essaye de l'oublier. Mais il y a, avec le temps, au fur et à mesure des témoignages qui se pensent dans une écoute étonnamment remarquable, il y a comme une bulle, un cocon en fait, où c'est... Ce qui se passe aussi, c'est qu'à défaut de répondre à quelqu'un, souvent il y a du fil en aiguille. C'est sûr que quelqu'un qui va évoquer un thème, ça évoquera pour une autre personne. Et là, c'est tout à fait OK. Donc, il n'y a pas de thème, mais finalement, quelquefois, il s'en glisse un. Mais chacun dit vraiment, vraiment ce qu'il a envie de dire ou d'interroger.
Oui, je me souviens, il y a vraiment de l'écoute, hein, et même peut-être une communion dans ce moment-là. Combien de personnes, justement, en général, sont présentes lors de ces réunions? On peut dire 30, 40, ça dépend des lieux, peut-être.
Je dirais que dans ceux qu'on a fait, ben plutôt par exemple au local d'écologie au quotidien, c'était 15-20. À certains événements comme les rencontres au café de chez Laurence, il y a eu une cinquantaine de personnes. À l'ESCDD, alors que nous l'avions associé à un spectacle de clowns sur le thème de la mort, il y avait 70 personnes au spectacle et 50 au Café Mortel. Et puis tout récemment, ce magnifique Café Mortel à la Corderie avec des élèves du lycée. Il y avait 5 élèves du lycée et 5 adultes. C'est pas mal. Je pense qu'entre... S'il y a 3 ou 4 personnes, c'est vraiment juste. Mais 12, 15, 20, c'est bien. Et s'il y a plus, ça marche quand même.
La fréquence de ces réunions est de quel ordre?
Nous, on essaye de mettre en place une régularité d'une fois par mois, en visant une date à 10 et une date le mois d'après en dehors de 10, parce que le but, c'est aussi d'être en itinérance et de toucher tous les habitants du Diwa. Donc, a priori, la date en février, c'est à 10, mais en mars, on peut déjà l'annoncer. Oui. Ce sera à Manglon, le 3 mars, au Barabok.
Justement, il y a cette distance hein, avec le Haut-Diwa, notamment. Est-ce que vous allez sur ces territoires aussi, ou est-ce que vous prévoyez du moins d'y aller, de vous y rendre?
Oui, absolument. Oui, c'est vraiment. C'était déjà le cas d'ailleurs du moment où les cafés se passaient dans le cadre avec le partenariat d'écologie au quotidien. Et nous sommes vraiment allés. Nous avons écumé les bars du coin à Châtillon, au bar des Alpes. Luc, nous irons aussi. Qu'est-ce que nous avons fait en fait? Nous avons même essaimé entre guillemets jusqu'à Uzès, jusqu'à Grenoble. Voilà, et puis je pourrais aussi dire que nous sommes en collaboration avec l'association Thanatosphère de Valence, dont la fondatrice est venue déjà plusieurs fois ici animer des ateliers. Elle pratique aussi des cafés mortels et elle en a essaimé énormément jusqu'en Ardèche, jusque dans l'Isère. Voilà, et en fait, c'est vrai que nous sommes sur le territoire d'Iwa, mais nous faisons la même chose et ça se répand vraiment beaucoup, même dans toute la France.
Tout à l'heure, vous parliez donc de lycéens. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt de la jeunesse sur ce sujet de la mort?
Bah, tout
enfin,
à fait.
Il y a une Tout une envie fait. De connaissance. Hein.
Tout à fait, bah, parce que aussi les jeunes, ils peuvent se poser des questions sur la mort, sur le deuil. Ils ont peut-être déjà aussi expérimenté voilà, la mort, le deuil. Et voilà, là, c'était une expérimentation complètement one-shot, ponctuelle avec la Cité scolaire. C'est dans le cadre d'un projet avec le prof d'anglais qui demandait à l'accorderie si on pouvait mettre en place des accorderies, des ateliers ponctuels pour montrer aux jeunes qu'on peut échanger intergénérationnel avec différentes générations autour d'un thème. Et donc, un des ateliers était un café mortel. Et il y avait, c'est Michel qui va en parler un peu plus, six lycéens et du coup, six adultes de différents âges. Mmh. Tu peux peut-être redire plus sur les âges ?
Oui. C'était, en fait, l'idée, c'était de ne pas avoir trop d'adultes. On en aurait sans doute eu beaucoup, mais les 35 élèves se sont répartis en petits groupes. Donc, il y avait, je crois, un était absent. Donc, il y avait 5 élèves et nous étions 5 adultes, dont un ancien de 93 ans, et puis une personne dans la quarantaine, et puis moi qui en ai 75, et une autre personne. Voilà, différents âges, et ça a été un moment vraiment très précieux, où on a vraiment vu que c'était tout à fait approprié de faire des cafés mortels. Nous avions déjà fait des cafés mortels à l'école, l'école privée, j'ai un doute sur la Buissonnière.
Caracol.
À Caracol. Nous avions fait 2 séances avec des enfants là, en dessous de 10 ans, enfin, ou il y a 10 ans éventuellement. Et une autre fois, nous avions proposé l'intervention de la compagnie de l'Envol. Il y avait donc eu la présence de clowns. Voilà, donc nous l'avions fait à l'ESCDD. Donc c'est vraiment, nous aimerions effectivement aller aussi auprès des jeunes, parce qu'ils ont aussi à dire.
Oui, et quand on a rediscuté après le café mortel avec les jeunes qui étaient présents, y avait beaucoup de retours que ça allait animer vachement d'échanger avec les plus anciens, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'occasions. Et même les anciens, et l'ancien qui était présent, il disait, même lui était étonné qu'il peut encore apprendre des jeunes des choses. Donc le but, c'est aussi de montrer qu'eux aussi, de leur jeune âge, ils peuvent transmettre des choses aux anciens. Ce n'est pas juste dans un sens, mais dans les deux. Et donc c'est ça qui est très nourrissant pour les deux côtés, je pense.
Ces moments sont donc voués à l'expression, au témoignage. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Michel, pour ce qui est du réconfort ou du conseil, vous le disiez donc plus tard. Est-ce que, justement, il y a ensuite, s'enchaînent peut-être d'autres moments autour de ce café mortel pour peut-être trouver d'autres aspects autour de ce thème de la mort ?
Alors, il y aurait deux réponses. La première, c'est que déjà, même personnellement, étant donné que nous sommes un peu, parce que nous sommes surtout des femmes dans ce collectif, des madames mortelles, et qu'on nous parle finalement, ça m'arrive de faire des mini-cafés mortels dans la rue, finalement. Parce que les gens savent qu'on en parle, et très vite, dès qu'on aborde, même en disant café mortel, il y a du témoignage qui survient. Donc ça, c'est une chose. J'ai même été amenée à accompagner un couple, par exemple, sur les directives anticipées. Voilà. Et puis sinon, effectivement, alors pour l'instant, nous n'avons encore rien décidé et nous le ferons savoir parce que nous démarrons ce collectif. Nous ferons probablement des ateliers. Nous en avons eu un qui s'est passé dans les locaux de l'accorderie et nous avions le matin le témoignage de Tanadoula. Donc les Tanadoulas, il y a les doulas de la naissance et les Tanadoulas sont des personnes qui se préoccupent de la fin de vie, de la mort et du deuil, qui accompagnent. Et elles sont venues témoigner et ça a été un moment extraordinaire d'apprentissage et de témoignage. Et l'après-midi, nous avons vraiment fait un atelier mise en œuvre des directives anticipées, à la fois en petits groupes. Et ce que je voulais dire aussi, je l'ai entendu par Agathe Bénard à Thanatosphère, les cafés mortels se placent très bien dans une sorte d'éducation populaire. C'est citoyen et éducation populaire et partage sur ce sujet de la mort. C'est vraiment
ça. Et j'ai envie de rajouter, quelque part, c'est aussi les participants et pentes d'un café mortel qui nous nourrissent en termes de thèmes à aborder à un autre moment. On écoute vachement s'il y a des thèmes qui reviennent, par exemple sur les directives anticipées, les funérailles écologiques, vivre son deuil collectivement. En fait, on essaie de bien écouter et d'ensuite imaginer un film qui va dans ce sens-là, une conférence. Et ce n'est pas forcément nous qui animant, mais on a un grand répertoire de personnes un peu plus expertes que nous sur les différents thèmes, et on les contacte facilement pour imaginer un autre temps. Mais c'est surtout les anecdotes et les témoignages des participants qui nous donnent la direction.
Tout à l'heure, vous disiez que la mort est un sujet tabou dans notre société. Est-ce que il y a quand même, en même temps, vous dites qu'il y a une grande demande pour ce café mortel, d'où sa réouverture. Il y a une piste à trouver entre ces deux notions, entre le tabou et cette envie d'en parler.
C'est un grand sujet. Oui, je pense que... Mon chemin à moi, c'est la mort d'un frère. Mon travail d'écrivain public en faisant des éloges funèbres qui m'ont amené à ce sujet. Ce que je pourrais dire, c'est que depuis que j'ai approché ce sujet, je n'ai pas tout résolu, mais j'ai l'impression d'être vraiment plus tranquille. Donc j'ai vraiment envie de partager ça. Et il se trouve que je travaille avec des collègues qui ont la même envie, et de fil en aiguille aussi d'en parler, de dire voilà ce que je fais, voilà ce que nous faisons. Je m'aperçois qu'il y a vraiment un questionnement, une nécessité. Et je dirais aussi la mort de nos proches, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces guerres, ce sujet de la mort qui est... C'est presque étrange qu'on ne parle pas de la mort dans notre société. Et je crois qu'avec ces cafés mortels et autres activités, nous contribuons à parler, faire parler, écouter et aller mieux.
Oui, moi j'ai envie de dire, de mon point de vue, le fait que ça se passe dans un lieu public, dans un bar, un café, aide déjà à détabouiser le thème et de le mettre vraiment sur la table. On boit un verre ou un café ou une tisane, mais en tout cas on en parle. On n'est pas chez nous, on n'est pas dans un espace clos. Et ce qui nous est arrivé d'ailleurs au Café Voltaire, où les gens y passaient pour normalement acheter des cigarettes, et finalement ils se sont arrêtés, ils ont écouté, ils ont même témoigné. Et donc pour moi ça contribue beaucoup à, même spontanément, je n'avais pas prévu d'aller à un café mortel, mais hop, je m'y retrouve et j'y reste et j'écoute et je témoigne. Et donc ça m'anime vachement dans les concepts, et je vois que c'est vraiment un format qui fonctionne bien. On a d'ailleurs des témoignages des personnes qui nous disent, ça fait des mois, je vois vos affiches, je note dans mon agenda vos rendez-vous, mais là, voilà, j'ai enfin réussi à y venir et y aller. Donc on voit aussi, c'est pour ça la régularité est importante pour nous, pour le remettre dans l'espace public et montrer aux gens que cet espace existe, et c'est ok de ne pas venir tout de suite, mais ça chemine, on sent que ça fait son chemin dans la tête des gens. Et moi, au début de l'animation du Café Mortel, j'aime bien redire une phrase que Bernard Crétaz a écrite dans son livre. Il a dit « Détraumatisant, si parler de grossesse n'a jamais mis une femme enceinte, parler de la mort n'a jamais tué personne. »
La mort, c'est aussi une disparition, une absence, et d'où ce vide peut-être à combler. Et il y a cette recherche de trouver, d'amener des mots, des pensées sur ce moment. Donc c'est aussi ce type de réunion du Café Mortel qui permet de trouver des sources pour peut-être combler.
Oui, déjà l'échange, la parole, comme je vous dis, même dans la rue ou un ami, une amie. Et puis, du coup, c'est aussi de se donner connaissance de livres, voire même transmettre à l'occasion les soins d'un thérapeute qui pourrait aider, ou les tanadoulas, ou inciter les personnes à aller parler si elles ont besoin. C'est un lieu d'expression de soi, d'avancée, mais effectivement un lieu de connaissance d'outils potentiels. Pour avancer, pour connaître, pour découvrir. Par exemple, les expériences de mort imminente, des personnes sont restées des éternités sans en parler, par honte, par peur, en disant « je suis fou ». Et en fait, en venant dans un café mortel, on va se rendre compte qu'une ou plusieurs personnes ont eu cette expérience. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des échanges. Il y a des gens, des chercheurs, des médecins qui ont cherché sur ces sujets et qui ont écrit des choses magnifiques. On croit ce que l'on veut. On n'a aucune obédience religieuse ou politique, ça c'est sûr. Mais c'est aussi justement se transmettre des ingrédients, des outils.
Dans notre société actuelle, comment expliquez-vous justement cet aspect du tabou de la mort ?
Là, il faudrait faire l'histoire de la mort. Il y a aussi des livres très intéressants. Ce que je pourrais juste dire, parce que du coup, j'ai encore à apprendre et à lire et à savoir, c'est que, je dirais, notre société européenne occidentale, avec toute cette évolution des soins, de report de l'échéance de vie, des soins médicaux, de prolonger la vie, d'avoir des richesses ou du confort, à amener les gens peut-être à croire qu'on pouvait ne pas mourir, être immortel. Quoi. Enfin, ça, c'est un des points. Alors, moi, je ne suis pas sociologue ni ethnologue, mais c'est une espèce d'illusion. Voilà. Sinon, je pense qu'il y a tout simplement la peur. Et du coup, on fait l'autruche et on préfère ne pas en parler. Mais je pense que ça serait intéressant, justement, d'accueillir un ethnologue qui vienne nous parler de l'histoire.
Oui, j'ai envie de rajouter, la mort est devenue un peu invisible dans nos sociétés parce que tout ce qui, quand une personne meurt, en général, les pompes funèbres viennent chercher le corps, on n'est plus en contact, on ne lave plus les corps en général, nous-mêmes, comme à l'époque. Et du coup, tout est un peu géré et ça, c'est pas comme d'autres cultures, comme en Asie ou en Afrique, où vraiment la communauté autour du corps, on accompagne, on fait on lave le corps, on est là, on honore le corps et tout ça, ça a disparu. Donc je pense que ça rajoute grandement au tabou parce que apparemment, on est éternel et on est toujours beau et jeune, mais c'est ce qui nous fait croire la publicité, mais c'est pas le cas et on subit malheureusement ça. Et ça rajoute grandement que ce tabou continue à exister.
Un aspect le plus connu, festif, c'est au Mexique, avec cette fête de la mort. Est-ce que ça serait à envisager, peut-être, pour amener un autre aspect de cette notion de la mort?
Oui, nous l'avons déjà fait, déjà en conviant donc Virginie, j'ai oublié son nom de famille, Harley, voilà, qui a créé un spectacle sur le thème de la mort en tant que clown. Et puis la compagnie de l'Envol, que nous avions invité, qui ont super bien réagi sur ce thème. Et puis, en fait, il y a déjà eu une collaboration avec le théâtre et Friction du Réel, où il y a eu des gestes. Il y a un cercueil qui a été fabriqué en carton et qui a été brûlé. Moi, j'avais animé un atelier d'écriture et j'ai fait défiler des personnes en hommes et femmes sandwich avec leurs stèles et leur volonté funéraire sur ces stèles. Donc, effectivement, ce serait bien de faire un bal mortel, par exemple, avec de la salsa et... Ce serait vraiment très important, c'est important de le voir, ça dédramatise.
Je ne sais pas si vous vous êtes vraiment intéressé sur ce qui se passe au Mexique, qui anime ces fêtes, est-ce que ce sont les habitants, les villageois, et peut-être il y a quelque chose de plus populaire que dans l'Occident, qu'en Occident. Comme vous dites, c'est devenu une activité économique, principalement la mort. On ne connaît rien d'autre par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a des recherches à opérer pour trouver et peut-être remettre aussi à l'accès de la population de cette notion de la mort?
Oui, je pense qu'il y a un énorme travail d'ethnologie, de sociologie. Je crois que j'ai plein de bouquins que je n'ai pas fini de lire. Mais je pourrais encore citer Thanatosphère qui ouvre avec son dynamisme à des présentations de spectacles. Il y a des événements au moment de novembre. Alors, j'ai oublié le nom, Aïm. Il y a des gens qui font... Il y a des coopératives funéraires qui créent aussi des événements. Du coup, ce serait bien... Oui, je pense que ce serait une très très bonne idée de le poursuivre. C'est tout un travail. Ce que je pourrais dire, c'est que actuellement au Mexique, c'est quand même assez mené par la religion et c'est populaire dans les traditions de faire des autels aussi, de danser, de se déguiser en squelette. Et c'est vrai que ce serait bien d'amener des traditions où on va vraiment. Et c'est ce qui se passe un peu parce que les cérémonies qui ont lieu à l'église sont importantes, mais on sait que ça diminue un peu. Elles sont un peu prises en charge dans l'animation par les rituels religieux. Donc ça limite. Par contre, il y a de plus en plus de cérémonies qui sont laïques et qui demandent justement une créativité. Et là, on va rejoindre par des gestes rituels, par des danses, par des dessins, par des créations, des paroles. Je pense qu'on peut effectivement, et c'est un peu dans notre idée justement de proposer qu'on n'est pas obligé d'être tout renfermé, d'obéir aux opérateurs funéraires qui nous font beaucoup payer. Et on peut créer ses propres rituels, en fait.
Par rapport une sorte de tradition ou peut-être d'élan populaire comme le carnaval hein, qui avait lieu depuis des siècles. Est-ce qu'il y avait à cette image une vénération pour la mort ou de la fêter au niveau français ou...
Ça va être pour la prochaine émission qu'on préparera.
Ah,
parce
d'accord.
Que là, c'est une...
Mais
c'est...
vous avez quand même quelques connaissances sur... Sur cet aspect-là
J'ai des bribes de connaissances, mais je ne peux vraiment pas en faire un résumé. C'est immense, il y a une littérature énorme. En fait, là, on s'en est aperçu, on a finalement sous nos coudes beaucoup de livres. Mais j'avoue que pour ma part, je n'ai pas encore pris le temps d'aller au-devant. Je pense que c'était un peu la même chose, d'aller au-dehors du tabou et de faire des rituels, les danses macabres, les célébrations. Mais par contre, je ne pourrais pas en faire... Là, c'est pas de mon ressort pour l'instant aujourd'hui.
Oui, c'est
mais
vrai.
C'est hyper intéressant. C'est une très bonne question, en tout cas.
En tout cas, je me souviens d'enluminures ou de scènes médiévales où il y avait justement ces squelettes qui dansaient. Donc, il y avait quand même une vénération ou du moins une fête à la mort. Donc, à découvrir par la suite.
Absolument.
Donc.
Ce que je pourrais dire juste, c'est avec la collaboration avec le théâtre de Die, il y avait eu une équipe de deux femmes comédiennes qui sont venues et qui ont créé un spectacle extraordinaire sur vie et mort avec toutes les générations et qui ont créé là-bas, en Ardèche, un spectacle extraordinaire avec des jeunes. Du coup, c'est vraiment mettre la mort en scène. Et là, voilà, ça, c'est une expression. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais du coup, je vais retourner à ma bibliothèque.
Alors, jeudi 5 février, donc à 18h au Pestel Café, il y aura un peu de convivialité hein, autour de ça. Pour en savoir plus, il y a une adresse mail, je peux l'indiquer, c'est cafémortel10wa, tout attaché, @proton.me. Ça sera au bar du Pestel, une participation libre.
Tout à fait. Et puis, on peut déjà annoncer, comme tu le disais, Dorine, hein, le prochain. La date vient d'être confirmée ce matin. Donc, ce sera au Baraboc à Minglon qui nous accueille. C'est un café associatif très dynamique. Et ce sera le mardi 3 mars de 20h à 22h. Donc là, c'est aussi avec de la convivialité et un bar. On peut boire un coup pour être encore mieux.
Au-delà de ces réunions, est-ce qu'il y a une ramification qui s'opère sur le Diwa?
Oui, en fait, bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a déjà les communications personnelles et puis il arrive que des personnes par relation ou venant à un café mortel vont avoir envie d'en créer. Nous n'en avons pas eu jusqu'à présent beaucoup, mais c'est arrivé à Uzès, à Grenoble. Nous avons une ancienne accordeuse qui a importé en Bretagne vers Saint-Malo. Et donc, nous sommes en tout cas prêtes à transmettre. Ce n'est pas un outil très compliqué. L'animation, si on a déjà un petit peu de savoir-faire et une envie d'oser parler de la mort, peut être vraiment très simple. Et après, il faut aussi trouver le lieu, faire de la communication quand même. Mais nous sommes en tout cas prêtes à le faire. Mais pour l'instant, nous recommençons dans le Diwa. Et effectivement, je le cite beaucoup, mais Thanatosphère en a proposé beaucoup et propose même une formation. Mais en fait, la transmission peut se faire extrêmement facilement. Les personnes qui vont vouloir en animer un auront déjà envie, savent qu'il y a lieu d'en parler et vont déjà avoir sans doute un certain talent pour animer.
L'image de cette affiche émane de qui ?
Bah, on a une amie qui adore créer des visuels, donc là, elle nous a aidé à créer ce visuel.
Oui, elle a super bien travaillé d'ailleurs. Ouais.
Et qui souhaite demeurer anonyme.
Je ne sais pas, tu crois ?
Bon, faut qu'on lui demande.
Oui.
Très bien. Eh bien, Dorine Gessler et Michel Geoffroy, je vous remercie toutes les deux d'être venues sur Air du Bois pour nous parler donc, de ce café mortel du jeudi 5 février au Pestel Café à Die. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Et pour terminer l'émission, juste, est-ce que vous auriez une proposition musicale pour clore cette émission ?
Oui, je vous avais proposé, je trouve que c'est un chanteur local,
oui.
Oui, Maurice Benin, et on va tous mourir. On va tous crever d'ailleurs, je crois que c'est même plus exact.
Wir werden alle Frecken sagen die Künstler. Aber nein, sagen die Wurst. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, dirent les saucisses. Je sais plus jouer, disait l'enfant. Tiens, voilà 5 francs, dirent les parents. On veut faire l'amour, dirent les enfants. Chut, j'appelle Royer, dirent les braves gens. Je veux pas savoir tuer, dit le soldat. T'étonne pas des tons, dit le général. Je sais plus penser, dit l'ouvrier. Tiens, une augmentation, dit le patron. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, dirent les saucisses. Regarde la jolie queue du poireau vert. Ça suffit, viens manger ta soupe en boîte. Viens caresser la feuille qui se repose. Ne perds pas ton temps, dis la raison. Viens faire sauter les digues et te baigner. Va te laver les mains, dit la propreté. On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, dirent les saucisses. J'aime pas les voitures, ça sent mauvais. N'arrête pas le progrès, dit la publicité. J'aimerais tellement connaître des choses vraies. Faut penser à s'amuser, dit la télé. Pourquoi vous acharnez sur ces enfants? On fait notre métier, dit le policier. Si tu veux pas crever, dis mon copain, viens en communauté, fais non plus. On va tous chanter, disait l'artiste.
Ah, mais oui, dire les saucisses.
Seulement, c'est parti.
Et voici nos dernières informations. Nous apprenons de sources bien informées que la petite Sophie, qui avait été kidnappée par des individus reconnus comme des Nord-Africains, a été retrouvée au grand soupir de ses parents. La France respire. 4-2, c'est le score du match à la mi-temps opposant l'équipe de Marseille à l'équipe d'Angoulême. Bravo, l'OM. Une information tout à fait anodine. Quelques Nord-Africains ont été retrouvés sur le caniveau. L'hypothèse d'un suicide n'est pas écartée.
porte-parole du gouvernement communique. Le SMIG augmenté de 0,0001% à compter du 1er avril 79. 2, 6, 12. Si vous avez joué ce tiercé dans l'ordre, vous gagnez 16 000 anciens francs et dans le désordre, 4 000 anciens francs. Et voici nos toutes dernières informations dans le cadre du développement industriel, humain, technique de la région Alsace-Lorraine, bassin Méditerranée, Sud, Sud-Ouest, Sud-Alpes, Bretagne, Normandie, Flandre. Porte-parole du gouvernement annonce la construction de prochaines centrales thermonucléaires.
On va tous crever, disait l'artiste. Ah, mais non, dirent les saucisses.